Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, toujours cette rentrée sur la thématique de la transmission. Alors, formidable énergie que celle de Maggie Casal. Bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Alors, je tenais vraiment particulièrement en cette rentrée donc sur le thème de la transmission de vous présenter Maggie Casal et effectivement tout ce qu'elle fait et principalement son ONG, mais elle va nous présenter un petit peu mieux évidemment son parcours. Pourriez-vous nous indiquer un petit peu votre parcours et surtout de quelle manière vous avez eu cette idée formidable de cette ONG Urbanisme sans frontières?
Oui, alors merci d'abord donc, pour cette invitation. Alors moi, je suis architecte de PLG et donc lorsque j'étais déjà en études en architecture, j'ai décidé de réaliser une thèse de doctorat en urbanisme. Donc mon objectif, c'était de relier les politiques publiques et aussi au métier des urbanistes. Et dans ce sens-là, en réalité, j'ai beaucoup milité à la fois pour l'écologie et aussi pour la politique. Moi-même, j'étais élue donc en 2001 à Paris. Donc de ce fait, je me suis rendu compte que finalement, au bout de compte, Paris n'avait pas besoin de moi et de mon énergie.
Donc il fallait mieux aller à l'international, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes démographiques, en termes de développement des villes, en termes de l'exode rural, en termes aussi de cette explosion des bidonvilles dans les pays émergents et en développement, fait appel quand même à notre volonté d'intervenir et aussi aider les populations locales à mieux vivre.
Ça veut dire que l'avenir des villes se construit au pluriel et non pas par pays ?
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de faire la gouvernance locale. Donc, c'est-à-dire la gouvernance des villes et des régions. On n'est pas à l'échelle nationale assez souvent, puisqu'aujourd'hui, l'urbanisation se concentre dans certaines zones dans le monde, et notamment, vous avez vu la majorité des villes dans le monde qui se développent, c'est autour du littoral. C'est quand même catastrophique en termes
aujourd'hui
des effets du changement climatique et de ses effets. Donc, en réalité, donc, du coup, il y a une désertification aussi urbaine au milieu des
pays. Alors, ça veut dire que les zones rurales vont définitivement devenir juste des lieux de consommation d'agriculture ou d'agriculture urbaine dans les villes et d'agriculture campagne dans les campagnes, sans personne
hein. Essayons que ça ne serait pas comme
justement,
ça,
justement, comment entendu. On essaye de...
Voilà, notre objectif, c'est en fait, quand nous, on a créé Urbanisme sans frontières en 2004, l'objectif, c'était le développement durable des villes et des territoires. Pourquoi des territoires? C'est justement aussi pour les zones rurales, parce que notre objectif, c'est quand même maîtriser cet exode rural. On ne peut jamais l'empêcher, mais l'objectif, c'est de développer aussi les zones rurales. Mais comment les développer? L'objectif, c'est de développer quand même des villes intermédiaires, des villes qui sont entre
qui sont quand même très malmenées aujourd'hui, voilà. Avec quand même une désertification extrêmement importante et un appauvrissement des centres-villes. Alors, on sait aujourd'hui que les métropoles ont une attractivité extraordinaire d'intensité économique, de gouvernance, de potentiel créatif, beaucoup plus important donc, que les pays. Comment on fait pour justement retisser ce lien entre les petites villes, les zones rurales et les grandes métropoles?
En fait, là, on commence à avoir un nouveau mouvement, à savoir que historiquement, il y a eu le mouvement international des villes. Ça date maintenant depuis à peu près 110 ans.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et il y a 10 ans, CG élu, c'est-à-dire cité et donc collectivité locale unie, se sont mis en place, donc depuis 10 ans. C'est là où on a commencé à renforcer la gouvernance locale. Et puis, tout récemment, ils ont commencé à mettre en place aussi, au sein de CG Élu Monde, une approche pour les villes intermédiaires, pour stopper justement ce phénomène d'exode rural, parce qu'on ne peut pas urbaniser la zone rurale, puisque ce n'est pas du tout le but, mais comment apporter des services essentiels et des services de proximité
à ces zones.
À ces zones. Mmh. Et donc, ça serait par rapport à des polarités qu'on peut créer et de renforcer ce qu'on a appelé des villes secondaires, mais maintenant, on les appelle villes intermédiaires, pour faire l'intermédiation, justement, entre les grandes villes ou les métropoles et aussi les zones rurales.
Alors, je dirais la plupart des auditeurs pourront évidemment, avec beaucoup de curiosité comme je l'ai eu et beaucoup d'impétence, regarder votre site et regarder ce que fait Urbanisme Sans Frontières et aussi vous, votre parcours personnel justement sur tout ce qui est animation de congrès, intervention, etc. Je vais traverser un petit peu et aller à l'étranger. Vous allez intervenir bientôt dans Africité, c'est-à-dire un sommet qui aura lieu du 20 au 24 novembre à Marrakech. Et donc, c'est très important sur l'évolution des villes africaines. Pourriez-vous nous parler de cette transmission du savoir-faire français en Afrique ? Est-ce une réalité ?
En fait, on peut dire une réalité puisqu'on a toujours, la France a toujours eu des relations quand même permanentes avec l'Afrique et surtout par rapport à la francophonie, n'oublions pas, bien il sûr. Y a aussi donc, la moitié de l'Afrique qui est francophone et dans ce sens-là, je voudrais annoncer aussi que Urbanisme Sans Frontières a mis en place le forum urbain et social de la francophonie. Hein, c'est tout récent cette année puisque notre première édition a eu lieu il y a un mois en Arménie lorsqu'il y a eu le sommet de la francophonie. Donc l'année, donc c'est tous les deux ans ce sommet et il y aura lieu en Tunisie en 2020, ce forum de la francophonie. Donc bien sûr la Tunisie fait aussi partie de l'Afrique et à signaler également que nous avons organisé un forum pour l'Afrique du Nord en Tunisie en juillet dernier. C'était dans le cadre de notre programme Afrique Ville Durable. Donc là, c'est très important de vous signaler, puisque pour Africité, qu'est-ce qu'on va faire ? Urbanisme Sans Frontières va organiser une session, c'est-à-dire c'est une sorte de table ronde qui durera donc 3 heures avec des intervenants et un débat avec la salle. Et nous allons à la fois présenter notre programme Afrique Ville Durable, qui constitue en réalité d'offrir à chaque pays africain une étude spécifique pour une ville avec son agglomération.
C'est-à-dire il y a un exemple de ville, une ville test qui va être prise pour chaque pays.
Pour chaque pays africain.
Ville test, l'idée de cette ville test, elle est portée par les gouvernements africains, quels qu'ils soient ?
Oui, tout à fait.
Ou c'est la ville et le maire de la ville qui attrape l'idée ?
En fait, l'idée, c'est très intéressant, la question, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la décentralisation n'est pas complète en Afrique.
Bien sûr.
Et d'un pays à l'autre, le niveau de la décentralisation est complètement différent. Donc, mais notre approche est toujours d'abord avoir l'accord des collectivités locales. Quand on dit accord, c'est déjà de les convaincre.
Un grand pas, bien
et
sûr.
En général, ils nous disent pas non, puisqu'on est suffisamment convaincant dans nos objectifs, puisque ça va dans le bon sens, et surtout par rapport...
D'autant plus que le pas est extrêmement important, puisqu'il y a certaines villes d'Afrique où, je dirais, ne serait-ce que les réseaux, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est assainissement doit être conforté, maintenu, rénové, et c'est un des prémices du développement durable, l'eau et la manière dont l'eau et l'assainissement sont pris en compte.
Oui, mais pour nous, ce sont des détails. En réalité, on voit ça comme cela, mais nous, les études qu'on offre en fait, pour chaque pays africain, c'est-à-dire l'exemple pour chaque ville, c'est localiser les objectifs de développement durable.
De cette ville.
Alors, et dans son agglomération, avec approche régionale. Donc, ça veut dire en réalité, c'est des objectifs de développement durable. Il n'y a pas simplement la question de l'eau, l'assainissement, bien entendu.
Bien sûr, c'est un des points. Non, je prenais cet exemple.
Mais au-delà de cela, c'est aussi tout le développement humain et également la prise en compte du changement climatique, comment atténuer ces effets de changement par rapport au climat et aussi. Comment on peut adapter la ville ou en tout cas la région par rapport à cela. Donc du coup, ce sont des détails que je suis en train de signaler. Notre programme est beaucoup plus riche que ça parce qu'il y a la question géopolitique à l'intérieur, il y a le développement économique.
Donc une fois que, donc, après cette session Africité, de quelle manière ces villes, donc ces États et ces villes, attraperont au vol donc, cette idée et de quelle manière vous allez développer sur les 2 ans à venir cette idée avec chaque métropole africaine qui aura été choisie et qui aura, adhéré à cette grande idée de développement durable en Afrique des villes africaines.
Oui, alors dans ce sens-là, à part ces études, nous réalisons à l'échelle donc grande région africaine, avec le découpage de l'ONU, c'est-à-dire les 5 régions africaines. Pour chaque région africaine, on a choisi un pays Et pour ce pays-là, on organise en fait dans une ville un projet pilote. Cette fois-ci, c'est un projet opérationnel qui donne l'exemple. Donc, ce n'est pas que des études, ce sont donc des projets
opérationnels. Donc, ça veut dire que c'est un quartier précis, c'est un endroit précis, c'est
exactement.
La création d'une place, voilà. D'une agora. Est-ce que vous travaillez avec les élèves, avec la jeune génération?
Il y a toujours toutes les générations, bien sûr. On intègre les universités, il y a l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Et pour dire en fait l'échelle de notre intervention, c'est des quartiers complets avec des programmes complets, hein, dans le sens il y a du logement, il y a des équipements, il y a des espaces publics, il y a aussi l'agriculture urbaine. Et pour, dans ce programme-là, tout ce qu'on apporte, c'est l'autonomie d'énergie, c'est aussi le traitement des déchets, c'est-à-dire comment les valoriser en énergie, et aussi avec d'autres systèmes de compostage ou autres, l'économie circulaire. Et on apporte aussi sur place les moyens pour créer des emplois.
Ça veut dire qu'il y a une création d'un référentiel qui après sera suivi avec un retour sur expérience 2 ans, 3 ans après. Comment vous mettez en place cette espèce de planning référentiel?
Oui, alors notre premier projet pilote est au Sénégal, dans une ville qui s'appelle Pikine, qui est la banlieue de Dakar. Et à Pikine, il y a 16 communes. Nous travaillons sur, donc nous avons fait le choix avec des élus de 4 sites sur lesquels il y a eu débat. Ils ont choisi un site. Donc, qui est à cheval entre Pékin Nord et Pékin Ouest. C'est sur ce quartier-là qui s'appelle Dominique, on va avoir notre premier projet qui va par la suite être comme un exemple, mais qui ne peut pas être partout copiable. Donc, ça sera toujours par rapport au contexte local.
On n'a pas, mais c'est, tout va très vite. Alors, je suis désolée, Maggie, je me permettrai de vous réinviter parce qu'on avait beaucoup d'autres sujets à aborder ensemble. Mais en tout cas, ça donne vraiment très envie de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci.
Merci. Au revoir.
À vous.
Au revoir. Merci.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.